Bonjour, vous écoutez Radio FM Plus, 91 FM. L'enregistrement de la conversation se tient à Marseille chez Françoise Guichard. Le long d'une série de 5 émissions, Françoise Guichard et Jean-Paul Brigelli dérouleront leur fil du fer. Les deux sont amis depuis 25 ans. Le sujet de leur conversation dans ce fil du fer, devenir soi par le professorat. Bonjour Jean-Paul, bonjour Françoise. Jean-Paul Brigelli, nous ne parlerons pas de vos livres sur l'école. Nous ne parlerons pas frontalement de votre vision de l'école actuelle. Ce fil du fer ambitionne de faire entendre la figure du professeur que vous avez été et les raisons pour lesquelles vous avez été ce professeur-là. Dans les classes prépa du lycée Thiers de Marseille, vous avez formé avec Françoise un duo de professeurs. Vous avez donné cours ensemble à des étudiants. Françoise, vous avez vu et entendu Jean-Paul faire cours. Qu'est-ce qui caractérise la manière de faire cours de Jean-Paul et qui ne peut s'expliquer que par sa personnalité et son parcours ?
C'est une présence très spectaculaire, théâtrale, une manière de faire qui effectivement impose une, je sais bien que c'est une notion discutable, mais enfin on va l'employer quand même, une autorité naturelle, un sens du théâtre. Alors moi aussi, à ma manière, je faisais du théâtre, mais pas le même type de théâtre, et un talent effectivement pour capter l'attention, non seulement par le contenu, bien entendu, de ce qu'il disait, qui était parfaitement passionnant, mais aussi par une façon de parler, de bouger, d'évoluer dans la classe, qui faisait en sorte que, ma foi, les étudiants étaient attentifs et à l'écoute.
Jean-Paul, pourquoi avoir choisi Françoise, vous en avez un peu parlé dans l'émission précédente, pour proposer à vous deux un duo à vos élèves de prépa à Thiers ? Quel était le rôle de chacune et chacun et quel but, singulier ou pluriel, recherchiez-vous en travaillant en binôme ?
Alors pourquoi elle ? Parce que je savais qu'elle était très bonne. Voilà. Et je peux pas le dire de beaucoup de mes collègues. Je vais peut-être me fâcher avec certains, mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les profs font cours derrière des portes closes, parce qu'ils veulent éviter qu'on sache ce qui se passe, véritablement. Il faut oser faire cours à deux. C'est absolument révélateur. De sa propre qualité ou de ses manques. C'est absolument essentiel. Comment je savais qu'elle maîtrisait ? Parce qu'on avait discuté moult fois, on se connaissait par cœur, en quelque sorte. Et je savais que dans sa profonde culture littéraire, qui n'est pas si fréquente que ça chez les spécialistes de littérature classique, on avait des références communes, bien évidemment, mais elle les voyait pas exactement de la même façon que moi. Il y a des auteurs d'ailleurs qu'elle m'a fait découvrir, et pareil, et on continue d'ailleurs actuellement. Hein, on passe nos semaines à échanger des livres plus ou moins de près. Et l'idée générale, c'était donner la possibilité. Un peu comme si, alors on reprend la métaphore théâtrale, imaginez que sur scène, il y ait deux équipes qui jouent la même pièce, quasiment au même moment ou en alternance, mais d'une façon telle que ça donne quelque chose de tout à fait différent. Il y a quelques années de ça, j'avais une amie qui faisait du théâtre à Nantes et qui voulait adapter une nouvelle d'Hemingway, qui est un dialogue en fait, qui s'appelle en anglais « Hills like white elephants ». En français, ça a été traduit de façon un peu abusive par « Paradis perdu ». Un homme et une femme discutent sur le quai d'une gare, on comprend qu'elle va partir probablement pour subir un avortement. Bien. Et il y avait une traduction dans la Pléiade, très plan-plan, traditionnel, etc. J'avais trouvé une deuxième traduction faite par Philippe Solers dans sa revue L'Infini. Et j'en ai fait moi-même une troisième traduction, très roman noir. Et la jeune femme qui mettait ça en scène, avec d'autres acteurs bien sûr, avait joué les trois en enfilé, c'était le même texte, et on arrivait à des choses totalement, totalement différentes. En fait, c'est ça, le vrai travail de collaboration, c'est d'arriver à un panorama, à un éventail d'interprétations qui font que l'étudiant en face a non seulement le choix, mais en fait, il sait que la vérité naît du cumul, en quelque sorte, de ces interprétations singulières. Notre voix plurielle, en quelque sorte, lui donne la possibilité de se forger lui-même un avis personnel et singulier.
Jean-Paul, dans les années d'apprentissage de votre jeunesse, qu'est-ce qui, à partir de ces années-là, qu'est-ce qui a construit votre capacité à devenir romancier, critique, journaliste presse, scénariste ?
Je ne sais pas. Le premier roman que j'ai écrit, j'avais 10 ans. C'était une imitation de Ian Fleming. Ma mère est tombée là-dessus et m'a dit « tu finiras sur l'échafaud ». Enfin, à l'époque, il y avait des échafauds. Hein. Et parce qu'il y avait beaucoup d'action, il y avait du sexe, 10 ans. Hein. Bon, je n'ai jamais cessé d'écrire. Jamais. Quand j'évoquais tout à l'heure mes années d'Hippocagne et de Cagne avec ce copain, nous nous racontions nos nuits de folie en faisant des « à la manière de ». Alors je peux vous dire que raconter une nuit de folie à la manière de Saint John Perse, c'est quelque chose absolument...
C'est un défi.
C'est un défi. Et de la même façon, d'ailleurs, j'ai toujours fait des « à la manière de » que j'ai parfois publié sur mon blog, Bonedad, etc. Et je n'ai jamais cessé d'écrire. Nulla dies in illinea, hein, comme disait l'autre, c'est un muscle. Si vous arrêtez d'écrire, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de jours où je n'écris pas. Non pas un mail ou quoi que ce soit, où je n'écris pas pour moi. En sachant que ce que j'écris n'est pas forcément très intéressant, n'est pas forcément utilisable, mais ça correspond à des exercices, exactement comme un pianiste suit des études. Vous voyez bien, Chopin, finalement, a publié un grand nombre d'études, et puis à côté de ça, il a fait des œuvres Satie. Ses œuvres plus connues ressemblent terriblement à des études, c'est-à-dire comment ne jouer que, comme disait Miles Davis, ne jouer que les bonnes notes. Hein, les gymnopédies, etc. C'est ça, totalement. Donc, il faut constamment, constamment écrire. Et pour constamment écrire, il faut constamment lire. Donc, en gros, toute ma vie, et c'est toujours vrai, je lis en gros 2 bouquins par semaine. Voilà. Ce qui suppose, alors, les journées ne faisant que 24 heures, tout ça suppose un emploi du temps un peu resserré. Alors j'ai le privilège, je m'en flatte pas, parce que c'est un fait physiologique, de dormir 5 heures par nuit et ne pas avoir besoin de plus. Donc je suis debout à 3h30, 4h du matin, etc. C'est l'heure à laquelle, entre 4h du matin et 8h du matin, c'est l'heure à laquelle j'ai écrit l'essentiel de mes livres. Exactement, ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. Paul Valéry se levait tous les matins vers 4 heures et écrivait ce qui a donné les cahiers de Paul Valéry, 4 volumes de la Pléiade, etc. C'est pas rien. Hein. Bon, c'était le moment où il frottait son intelligence contre elle-même pour voir si ça faisait des étincelles. Et c'est d'une. Enfin, le résultat est absolument sidérant. Parce qu'il faut imaginer, vous lisez ça, il faut imaginer l'obscurité. Il faut imaginer que quelqu'un dort peut-être dans une autre pièce, mais dort la nuit, on est incroyablement tranquille. Voilà. Et il a peut-être une tasse de café à côté de lui, ou plusieurs tasses de café. Parfois, il se lève, va pisser, il revient, il continue à écrire des choses qui sont apparemment décousues, mais dont la lecture, c'est le problème des fragments. Vous savez, Nietzsche, c'est la même chose. Les fragments de Nietzsche, chaque fragment vaut tous les volumes de Kant. Et C'est pareil, c'est-à-dire que vous pensez par fragment, par fulguration, ou par fulgurance, comme vous voulez, et de temps en temps, c'est très mauvais. C'est très très mauvais. Il faut se résoudre d'ailleurs parfois à écrire ou à lire des choses très mauvaises. C'est la pierre de touche. Si vous voulez, de temps en temps, histoire de d'éprouver le degré zéro, je lis Annie Ernaux, vous voyez, ou Édouard Louis. Mais ça me permet après de reprendre Flaubert, Maupassant, et de savoir ce que c'est véritablement qu'un très grand écrivain.
Jean-Paul, vous êtes né à Marseille en 1953, d'un père d'origine corse. Qu'avez-vous conservé de ce Marseille-là qui teinterait vos relations aux autres, au professorat, à la culture ?
Alors, il ne reste à Marseille rien du Marseille des années 60, rien. Sinon, une architecture aberrante de l'époque où Gaston Defferre donnait des contrats aux copains. Bon, la ville ne ressemble pas à ça. C'était une ville essentiellement populaire, et populaire au bon sens du terme. C'est-à-dire que les établissements scolaires, par exemple, avaient un brassage de classe sociale tout à fait remarquable. Je ne pourrais même pas parler de brassage ethnique parce que c'était une ville qui était très peu ethnique. Sur la totalité, je vais être très clair là, sur la totalité de mes études, entre le CP et l'Hippocagne, en tout et pour tout, j'ai rencontré deux Africains. Deux. Et c'est à peu près tout ce qu'on voyait dans la ville, d'ailleurs. Hein. Je n'ai jamais rencontré d'Asiatiques. Il y avait à Marseille un resto chinois depuis 1948, qui existe toujours d'ailleurs, et c'était tout. C'était une ville essentiellement provençale. Et ce que ça m'a donné, c'est le goût du peuple. Le peuple au sens vraiment michelé du terme, hein, c'est-à-dire non pas le prolétariat, etc., mais le peuple. Le peuple tel qu'il s'exprime dans les bistrots, sur les jeux de boules, dans la rue, etc. C'est une ville où, par bonheur, on pense à voix haute, de sorte qu'on entend ce que pensent les gens véritablement, etc. C'est terminé. Je veux dire, il y a un degré d'agression maintenant dans les propos des gens, dans leur attitude, etc. Jamais on aurait pensé qu'on aurait eu des altercations avec des gens qui se déplaçaient en vélo ou en trottinette. Or, c'est devenu permanent. Jamais on aurait pensé qu'on aurait eu des embouteillages de voitures dans la ville. Ça n'existait pas. Voilà. C'était une ville où on sentait partout l'air marin. Hein, c'était vraiment, je parlais de Valérie tout à l'heure, hein, c'était vraiment ce toit tranquille où marchent des colombes. Voilà. C'est une ville où, quand on taillait le lycée, on allait à la plage, etc. Et on revenait chez soi en disant non, j'étais en cours et on avait du sable qui déclinait de tous les côtés. c'était très, très drôle. C'est une ville qui n'existe plus. Hein, je crois que c'est le cas d'ailleurs de pas mal de cités en France. L'urbanisation a été menée d'une main de maître pour que ça soit déshumanisé complètement, et c'est à peu près ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça donnait le goût d'aller vers les autres, parce que le contact dans le midi est extrêmement facile. Avoir l'amitié de quelqu'un, c'est aussi compliqué que partout ailleurs. Hein. Mais le premier contact, autour d'un café sur le rad matinal, ça va tout seul. Voilà. Alors, je vis ça encore un petit peu au bar de la marine tous les matins avec les marins du ferry-boîte, comme disait Rému. Mais c'est quelque chose qui s'estompe totalement. Je sors de moins en moins le soir, et je le dis très froidement au micro, quand je sors armé.
Et pour vous, Françoise, qui êtes née à Digne-les-Bains, quelle est cette histoire, votre histoire ?
Alors l'histoire évidemment est complètement différente. À l'époque, à Digne-les-Bains, il devait y avoir 15 000 habitants. C'est une ville de montagne, entre guillemets, entouré de montagnes. En tout cas, l'altitude de la ville, c'est 600 et quelques mètres. Mais enfin, on est rapidement dans de la montagne, et de la montagne où, à l'époque, il neigeait beaucoup. Donc, j'ai des souvenirs divers enneigés où on a eu bien froid, en particulier l'hiver de la grève des mineurs. À l'époque où on chauffait au charbon, n'est-ce pas? C'était une petite ville toute noire, toute triste. Rétrospectivement, je lui retrouve, en me retournant 60 ans après, n'est-ce pas? Je lui retrouve un certain charme austère, mais sur le moment, il est certain que j'étais beaucoup plus heureuse chez mes grands-parents à Serrest, où là, on était au village, on était à la campagne, on était dans des personnages, par exemple, en face de chez mes grands-parents, habitait un monsieur qui s'appelait Monsieur Nègre et qui était le personnage auquel Jean Giono rend hommage dans Tombeau pour un berger. C'était un univers, et pourtant, il y a combien ? Il doit y avoir 80 kilomètres entre Digne et Serrest. C'était un univers complètement différent, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus à tous les sens du terme, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus provençal que Digne, qui était quand même déjà quelque part. Bon, c'est pas vraiment le Dauphiné, mais le Dauphiné n'est pas loin. C'était plutôt tristouné. Donc j'ai pas vraiment de nostalgie pour cette ville là à cette époque là. Peut-être parce que la ville ne s'est pas gentrifiée. C'est petite ville qui, comme toutes les petites villes, a beaucoup de mal à survivre. Mais je n'ai pas de nostalgie de ce point de vue-là.
Nous arrivons au moment de la pause musicale. Pour cette pause musicale, Jean-Paul, vous avez choisi de faire écouter Deep Purple, Smoke on the Water, version live 1972. Vous m'avez dit qu'avec le groupe Led Zeppelin, c'est le cœur de ce que vous écoutez. Dans quel sens entendre ce mot « cœur » ?
C'est pourquoi ça s'appelle « Smoke on the Water » ?
Vous allez me le dire.
Deep Purple donnait un concert du côté du lac de Genève, et côté suisse. Et ils ont vu de l'autre côté, vers Aix-les-Bains, etc., ils ont vu une fumée qui montait. Et le casino était en train de flamber.
Au sens strict.
Au sens strict, oui. Ça avait pris feu, un incendie très, très connu, tout et tout. Et ils ont vu littéralement la fumée qui montait au-dessus du lac. Smoke on the water. Voilà. Que ça leur ait donné l'inspiration de ce morceau de basse absolument prodigieux qui ouvre ça, et puis c'est des invocations en quelque sorte, et on sent que Smoke on the Water, c'était également une référence lointaine aux signaux de fumée que pouvaient faire les Indiens, etc., c'est-à-dire que des signes se développaient au-dessus des eaux tranquilles du lac Léman.
D'accord, mais pourquoi est-ce que vous les écoutez ?
Eh bien, parce que à chaque fois, je vois les signaux de fumée qui me font des signes.
Merci, on écoute. Vous écoutez Radio FM+, 91 FM. Françoise Guichard et Jean-Paul Brighelli, deux anciens professeurs de littérature, sont au micro du fil du fer. L'une et l'autre se disent la place de leur amour pour la littérature, pour le professorat, dans la construction de leur identité et le déroulement de leur fil du fer. Jean-Paul, avez-vous eu des modèles de votre enfance à l'âge de jeune adulte que vous avez convoqués au début de votre carrière professorale, voire tout au long de celle-ci?
Alors, c'est un jeu, hein, vous savez, quels sont les profs qui vous ont marqué? Alors, c'est très simple, moi j'en ai eu 2 ou 3. J'en ai eu un en 4e, un prof de français qui très vieux, c'est-à-dire qu'il avait 7-8 ans de moins que moi actuellement, qui s'appelait Monsieur Jean, et qui passait pour une terreur, qui nous avait donné par exemple, on faisait à l'époque des compositions, en composition de récitation, le Cid à apprendre en une nuit. Voilà. Et alors pas tout à fait le Cid, mais pas tout à fait toute la pièce, mais une quinzaine de scènes à peu près. Et le lendemain matin, je le savais, j'étais à peu près le seul d'ailleurs à le savoir, mais lui, il le savait. Et chaque fois qu'il y en avait un qui patinait sur un vers, il enchaînait et il décomptait les points en fonction du nombre de vers qu'il avait dit lui. C'était, je me rappelle, avoir été premier en version latine avec 0. Les autres ayant des notes négatives. Ça descendait à moins 80, etc. C'est une pratique que j'ai d'ailleurs réutilisée, moi, en dictée, en collège. Et c'était un jeu, c'était très drôle pour tout le monde. Combien tu as eu? J'ai eu moins 60, ouais, je te bats, j'ai eu moins 120. Enfin, voilà, chose comme ça. Mais, alors ça a été le premier. J'ai eu un prof de philo en Cagne, qui s'appelait Michel Gourina, qui a fait l'un des plus extraordinaire manuel de philosophie qu'on ait jamais fait, qui est décédé l'année dernière, qui parlait en 27 parties. Nous regardait, il faisait grand 1, grand A, premièrement, et parfois alpha. Là, on montait en 81 parties. Et uniquement comme ça. C'est-à-dire que on apprenait à faire un plan par infusion mentale, en quelque sorte. Et puis, là, j'étais au niveau licence master. J'ai suivi les cours de Roland Barthes à l'école pratique des hautes études. Et alors là, c'était un enchantement absolu. C'était un modèle total. Il y avait 50 personnes qui écoutaient ça dans un silence absolument religieux, parce que c'était vraiment un enchantement. Voilà, c'était un enchanteur à tout point de vue. C'est un type d'une culture absolument sidérante et qui surtout, sur des textes que l'on croyait connaître, développait soudain des points de vue d'une originalité absolue. Où il se souciait assez peu, je dois dire, du contenu, mais où il faisait parler la forme. C'est-à-dire que ce qui l'intéressait, c'est l'époque où il travaillait sur ce bouquin qui allait devenir Fragment d'un discours amoureux, où on apprenait ce que c'est que je t'aime, dans un texte, etc. Il s'intéressait au, ce qu'il a appelé par la suite, le plaisir du texte et la jouissance du texte. Et on emmerde Dany Arnaud.
Enchaînons. Cher ami. Donc, Jean-Paul et Françoise, Vous avez 3 passions communes. Vous avez le don de me couper la chic, Jean-Paul. Jean-Paul et Françoise, vous avez 3 passions communes. La littérature, le professorat, le rugby. Je me permets de vous laisser...
Vous avez oublié la cuisine.
Et la cuisine, 4. Rajoutant 4 passions communes. Je me permets de vous laisser parler de ces 4 domaines-là et de tirer de possibles correspondances entre eux.
Alors avant de vous répondre, je voudrais revenir sur les professeurs inspirants, parce que je n'ai pas eu l'occasion de répondre et je voudrais en profiter, là, puisque je cause dans le poste, comme disait ma grand-mère, pour rendre hommage non seulement à Mme Roselyne Querelle, dont j'ai parlé précédemment, qui m'a vraiment fait découvrir le grec, mais moi aussi, ma professeure de philosophie de Cagnes, qui s'appelait Mme Annie M, qui est décédée il y a, je dirais, une quinzaine d'années, malheureusement, et qui était un véritable génie. Et le point commun de ces deux dames, c'était l'enthousiasme. Et je crois c'est ce que j'ai essayé. Ces deux dames ont été en quelque sorte mes gourous pédagogiques. Et je crois que on ne peut transmettre vraiment que si on est enthousiaste, si on aime sa matière, si on aime et si on, à partir de l'amour de sa matière, du français, du latin, du grec, on va trouver toutes les stratégies possibles, y compris de séduction, hein, pour les transmettre. Alors après, pour en revenir aux passions...
Merci pour avoir pris la parole sur ce sujet. Merci.
Alors, pour en revenir aux passions, la littérature, le rugby, la cuisine...
Et le professorat.
Et le professorat, bah le professorat, c'est, enfin pour moi, comme je l'ai, je crois, un peu dit, c'est une évidence. Hein. C'était ça ou reprendre la librairie de mes parents. Bon, j'ai beaucoup hésité quand même. Mais quelque part, c'était pas vraiment différent. C'est de manière différente de parler des livres. Hein. Quand on est professeur de lettres, c'est... Bon, je pense que je vais faire de la pub pour mon émission littéraire sur Radio Zinzine Aix-en-Provence, n'est-ce pas ? Je crois que le fait d'avoir vendu des livres, ça donne une approche qui est peut-être un petit peu même très différente de celle du professeur, mais ça permet, quand on chronique un livre, d'aller à l'essentiel directement et d'essayer de transmettre, de donner l'amour du livre, sachant que je ne chronique que les livres qui m'ont plu, ceux qui me permet d'éviter de chroniquer Édouard Louis et Annie Ernaux, j'en remets une couche. Bon, sur le rugby, parce que c'est beau. C'est beau, c'est un jeu qui est intelligent, c'est un jeu qui est esthétique, c'est un jeu qui demande toutes les qualités intellectuelles, morales. Voilà, c'est quelque chose que je trouve absolument parfait. Quant à la cuisine, j'aime la faire, bien entendu. Ce sont mes grands-mères qui m'ont appris. Mon père aussi. J'ai appris à mon fils, parce que la cuisine, c'est de la transmission aussi. Et quelque part, c'est pas radicalement différent du professorat, hein, parce que qu'est-ce qu'on fait finalement quand on est prof de lettres, que ce soit de français, de latin ou de grec ? On va servir aux étudiants une cuisine dont on espère qu'ils la mangeront avec plaisir et qu'ils auront envie de la reproduire, éventuellement de la perfectionner, d'améliorer la recette ou de construire à partir de ce qu'on leur a donné, leur recette à eux.
Alors, on a beaucoup parlé du professorat, donc je ne vais pas peut-être revenir dessus. C'est effectivement un bonheur de représentation. Hein. La cuisine, c'est là, finalement, je suis plutôt un intellectuel, donc c'est avec la photographie l'un des rares domaines dans lesquels je fais quelque chose avec mes mains. Voilà, et c'est assez important quand même. Et par ailleurs, je fais... il y a le bonheur d'aller faire des courses. Je suis très instinctivore, c'est-à-dire je pars pas avec une idée précise, mais j'ai le produit qui m'appelle, en quelque sorte. Et quant au rugby, on est à Marseille, on est dans une terre de foot, essentiellement. Alors allons-y dans la comparaison entre le foot et le rugby. Le foot, c'est un sport dans lequel, lorsqu'ils se cassent un ongle, ils se roulent sur la pelouse en appelant leur mère. Et en poussant des râles d'agonie. Le rugby, c'est un sport où, quand ils ont les deux arcades ouvertes, un os demi, etc., ils continuent à pousser. Voilà. D'un côté, on a un sport de pezouille, et de l'autre côté, on a un sport d'homme. Y compris quand ce sont des femmes qui jouent. Je veux dire. Sans compter alors que j'ai jamais compris pourquoi les footballeurs étaient en fait des bandits manchots qui ne servaient jamais de leurs mains. Ce truc qui me dépasse complètement. Alors que les rugbymen sont des hommes complets. Je me rappelle une réflexion d'élèves d'IUT il n'y a pas très très longtemps. Ah ouais, mais les rugbymen sont des gros tas. Eh bien, viens qu'ils te donnent une fessée. Et tu vas comprendre ce que c'est qu'un gros tas. Les footballeurs sont pourris par l'argent. De toute façon, les rugbymen sont payés à leur valeur. Il y en a qui gagnent fort bien leur vie, mais qui ne sont pas forcément des millionnaires indécents avec des clans derrière eux qui disent, qui relisent leurs contrats, etc. Entre les aventures suédo-sexuelles de Mbappé et la classe d'Antoine Dupont, j'ai choisi.
Je voudrais rajouter quand même un petit truc là, par rapport à ce que veut dire Jean-Paul sur Marseille, c'est qu'il y a au rugby, il y a le Stade Fosséen, hein, qui est un petit club très courageux, à qui il faut rendre vraiment hommage, parce que là, ils sont en terre de mission.
Jean-Paul, vous, est-ce que donc cette morale ou cette éthique de « on pousse même blessé » est quelque chose qui...
On nous... s'arrête quand on est mort. Voilà. C'est tout.
Est-ce que c'est pour vous aussi ?
Bien sûr que c'est pour moi aussi. Je veux dire, on ne s'arrête que mort. Je me rappelle quand je jouais au handball, j'ai fait ça jusque vers 30 ans, à peu près, j'ai arrêté sur blessure, en fait, comme beaucoup de sportifs, finalement. Ça m'est arrivé, je me rappelle, un match où on m'avait ouvert une arcade. Ça saigne terriblement, les arcades. Hein, et ça avait coulé, ça arrivait jusque dans les chaussettes. C'est une belle ouverture, quand même. Et je courais en faisant floc-floc, et il y avait des traces de sang sur le côté où j'étais, puisqu'on est très posté. Hein, mais c'était une incitation de plus à me battre. Et alors là, c'est là qu'on retrouve les lettres classiques. Dans l'Iliade, sauf erreur, Agamemnon, je crois que c'est Agamemnon, se prend un javelot dans le bras, entre le radius et le cubitus. Il l'arrache d'un geste négligent et il continue à se battre. Et, dit Homère, tant que le sang coula, il se battit avec la même intensité. Mais quand la blessure commença à se refermer, il se replia, et avec lui l'armée grecque se replia, et les Troyens en firent un grand massacre. Eh bien, il faut se battre tant que le sang coule. Voilà, n'importe, je me bats, je me bats, je me bats. C'est la fin de Cyrano de Bergerac. J'ai appris ça par cœur quand j'avais 8 ans, à peu près, sur des disques 33 tours, où c'était Daniel Sorano qui jouait le rôle. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. Qu'importe, je me bats, je me bats, je me bats.
C'est encore plus beau lorsque c'est inutile.
Jean-Paul, vous êtes le dernier vivant des trois auteurs d'un manuel scolaire, en plusieurs volumes, de littérature à destination des lycéens, édité chez Magnard dans les années 80 du siècle passé. Texte et contexte, 4 volumes, anthologie de textes littéraires avec Christian Biet, et Jean-Luc Rispail, 1981-1983. Tous les trois avaient coécrit d'autres ouvrages ensemble. Ce manuel, ces ouvrages, en quoi font-ils partie de votre histoire intellectuelle et comment avez-vous composé à trois cette anthologie en ce qui concerne le manuel scolaire qui est tout ensemble somme critique et d'histoire littéraire et artistique du Moyen-Âge au XXe siècle?
Alors, il s'agissait de réagir contre la domination partage du Lagarde et Michard. Et on avait été choqués pendant toute notre formation par Lagarde et Michard, qui raconte quand même sur la littérature de sacrées carabistouilles. Donc, là, il s'agissait de vraiment à la fois de donner les textes et des textes jamais lus dans Lagarde et Michard, de donner toute l'histoire de l'art simultané, parce que lire, c'est aussi voir, de toute façon, et l'histoire critique, le tout rassemblé en un volume. Donc, les 4 volumes, du 16e au 20e siècle, font à peu près, je ne dis pas de bêtises, 2500 pages. 8 ans plus tard, les pédagogues étaient au pouvoir, les manuels de première faisaient 250 pages. Voilà. Voilà ce qu'on a perdu. Lorsque Françoise tout à l'heure parlait de sa terminale C, C2, hein, il faut bien comprendre que le programme de maths des terminales C des années 70 faisait très exactement le triple ou le quadruple du programme de maths des séries spécialisées actuelles. On a perdu d'une façon extraordinaire du potentiel de savoir Or, ce potentiel de savoir est aussi, à terme, un potentiel créateur. Qu'on ne s'étonne pas, finalement, qui est actuellement une littérature aussi pauvre, une manne artistique très limitée, une manne musicale un peu répétitive, quand même. Je ne suis pas un amateur de rap, voilà, il faut le dire, un moment ou un autre. Et c'était d'une richesse absolument extraordinaire. C'était ça, notre idée. C'était d'offrir aux élèves, à tous les élèves, les manuels les plus riches possibles pour leur donner l'envie d'aller voir, en quelque sorte. Dans la guerre des Michards, il y avait quelques tableaux, par-ci, par-là, auxquels on dessinait des moustaches. Voilà. Là, il y en avait des centaines. Il y avait des centaines de textes, hein. Il y avait des centaines de textes critiques, hein. L'idée générale, c'était de faire des manuels, comme on disait, à géométrie variable, où on pouvait passer de l'un à l'autre, retourner en arrière, etc. On n'avait pas encore l'informatique à l'époque, mais c'était conçu comme un travail informatisé. Voilà. Où on pouvait recomposer en quelque sorte le livre comme on l'entendait. Voilà. Ça a été. On est allé voir l'éditeur, dont on savait qu'il cherchait des équipes. Il en avait déjà une, constituée d'universitaires. Il y avait Alain Viala, qui a fait beaucoup de mal au programme scolaire, etc. Et nous les avons éjectés. Littéralement, ils nous en ont beaucoup voulu quand même, du point de vue universitaire. Nous avons éjecté, nous avons fait ces bouquins à une allure absolument vertigineuse, en travaillant quasiment toutes les nuits pendant des mois. Voilà, en utilisant, on était sur Paris, en utilisant toutes les ressources de la bibliothèque de Beaubourg, qui était miraculeusement sortie de terre un peu de temps avant. Si on avait dû aller chercher ça à la Bibliothèque nationale, on y serait encore. Ça s'est fait très très vite, hein, et dans un grand enthousiasme. Voilà, et ça a très bien marché.
En une phrase, à quoi sert un manuel scolaire, et est-ce exclusivement destiné à des élèves?
Alors, un manuel scolaire, c'est comme une recette de cuisine. À quoi sert une recette de cuisine? À vous donner l'inspiration. Maintenant, n'importe quel cuisinier, Françoise, hein, on est d'accord, s'éloigne de la recette, hein, se la fait sienne, rajoute un petit quelque chose, etc. On parlait de la daube de bœuf tout à l'heure. Par exemple, je suis très attentif à y mettre de l'écorce d'orange. Voilà, mais c'est rarement dans les recettes, vous voyez, même dans la cuisinière provençale, qui est une bible absolue, vous n'avez pas la notation de la... Il y a plein de choses comme ça en cuisine, puis il y a quelque chose aussi qui est le coup de main, finalement, et qui là non plus ne s'apprend pas. Un manuel scolaire... comme son nom l'indique, c'est ce qui donne à votre main la possibilité d'écrire ses propres textes.
Dans les deux minutes qui nous restent, Jean-Paul et Françoise, qu'est-ce que le métier de professeur a modifié dans vos relations aux autres et votre connaissance de vous-même?
Ouh là là, dans deux minutes, même pas dans une minute, parce qu'il faut que je laisse parler Jean-Paul. Bon, qu'est-ce que ça a modifié dans la connaissance de moi-même? Franchement, pas grand-chose. Dans mon rapport aux autres, c'est compliqué. Rapidement, oh là là, là, vous me posez une colle, franchement. Je sais pas. Peut-être finalement, mais post-rem, tout l'amour que je reçois de mes anciens élèves et de mes anciens étudiants, ça vient après.
Alors très franchement, ça m'arrive encore actuellement qu'on me reproche. Ah là là, qu'est-ce que tu peux être prof ? Et automatiquement, je sais que la personne qui me dit ça, c'est quelqu'un qui ne savait pas et qui est vexé du fait que je lui ai appris. Et il y a des tas de gens, finalement, à qui il faut en permanence apprendre, ne jamais renoncer à leur apprendre, ne jamais céder devant la bêtise, en quelque sorte. C'est ça, le métier de prof, perpétué jusqu'à la mort.
C'est ainsi que s'achève ce fil du fer en compagnie de Jean-Paul Brekelli et de Françoise Guichard.